VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir à tous, John Lyndon et Morgan Guerriec en votre compagnie. Bienvenue à cette édition du mercredi 2 mars 2016. Au sommaire ce soir...
Crise burundaise, l'Afrique de l'Est a nommé un facilitateur. Il s'agit de l'ancien président tanzanien Benjamin Mpaka.
La République centrafricaine face à une crise alimentaire.
Nous sommes en train de parler de 2,5 millions de centrafricains qui sont en insécurité alimentaire.
Au Bénin, l'opposition met en cause les conditions d'organisation de la présidentielle de dimanche.
Au Malawi, 7 personnes ont été brûlées vives pour sorcellerie.
Afflux de migrants en Europe, la Commission européenne propose une nouvelle enveloppe de 700 millions d'euros pour faire face aux besoins humanitaires des pays de l'Union.
Dans moins de 10 minutes, l'économie et les sports, mais tout d'abord, le journal.
Fin à Arusha, en Tanzanie, du sommet des pays de la communauté économique d'Afrique de l'Est. Parmi les décisions prises par les leaders de l'organisation régionale, la désignation d'un facilitateur pour la crise burundaise et la mise en circulation d'un passeport communautaire. D'Arusha, les précisions de Désiré Atungimana, envoyé spécial du service Kirundi-Kinyarwanda de la Voix de l'Amérique.
À la clôture de ce sommet, les chefs d'État ont décidé de reconduire Joseph Pombe Magufuli comme président de l'EAC. Libera Mfumukeko du Burundi a été élu comme secrétaire général de l'Afrique de l'Est. Il est secondé par Charles Njologo du Kenya. Et d'autres décisions qui ont été prises, c'est que Benjamin William Mkapa va devenir le nouveau facilitateur du conflit au Burundi, mais il ne va pas remplacer Yoweri Kaguta Museveni, qui va continuer sa mission, mais Benjamin William Mkapa vient pour l'épauler pour que le conflit burundais trouve une issue rapide. Une autre décision est que les habitants de l'Afrique de l'Est vont bientôt avoir un passeport unique pour l'Afrique de l'Est, un passeport qui sera biométrique et qui sera aussi utilisé pour se rendre dans des pays qui ne sont pas de l'Afrique de l'Est. Ensuite, les chefs d'État ont décidé que le Kiswahili devient aussi une langue officielle pour l'Afrique de l'Est, raison pour laquelle d'ailleurs les présidents Kenyatta, le président Kagame et le président Magufuli ont utilisé cette langue pour clôturer ce sommet, ce 17e sommet de l'Afrique de l'Est.
Désiré Atungimana, envoyé spécial du service Kirundi-Kinyarwanda de la Voix de l'Amérique, qui nous parlait d'Arusha.
Lors de ce sommet d'Arusha, le Soudan du Sud a rejoint les rangs de la communauté des États d'Afrique de l'Est, qui compte désormais 6 membres, le Kenya, l'Ouganda, la Tanzanie, le Rwanda, le Burundi et le Soudan du Sud, et regroupe plus de 150 millions d'habitants. L'organisation œuvre à développer et faciliter les échanges commerciaux entre ses membres.
Du nouveau concernant l'enlèvement de 3 lycéennes au Nigeria, la police dit être sur la piste des ravisseurs. Rappelons que 3 hommes armés ont kidnappé lundi les 3 élèves de l'école privée anglicane de Lagos. Aucun groupe n'a revendiqué le rap, mais les kidnappings crapuleux sont très fréquents dans la plus grande ville d'Afrique.
L'Afrique de l'Ouest, qui est par ailleurs zone de trafic clé du marché mondial des drogues, l'organe international de contrôle des stupéfiants affirme que la classe moyenne en expansion est un nouveau débouché pour les trafiquants. Fait nouveau, la région est en outre devenue une zone de production de drogues de synthèse comme la méthamphétamine.
Au Rwanda, le parquet a requis une peine de 22 ans de prison contre le colonel Tom Byabagamba, ancien chef de la garde présidentielle, ainsi que le général Frank Rusagara, jugé par un tribunal militaire, notamment pour incitation au soulèvement. Tous les deux ont plaidé non coupables.
Au Malawi, une foule en colère a brûlé vive 7 personnes soupçonnées de trafic d'ossements humains pour des pratiques de sorcellerie. Idriss Fall.
C'est un responsable de la police, Kerdi Kaunga, qui l'a annoncé. Les 7 victimes ont été trouvées en possession d'ossements humains et la foule en colère a décidé de les brûler vives avec de l'essence. Cela s'est passé dans le district de Nsanje, dans le sud du Malawi. Les corps calcinés ont été remis à la morgue d'un hôpital local où ils attendent d'être identifiés par des proches. la police n'a procédé à aucune arrestation parmi ceux qui ont perpétré cette justice de la rue. Elle a ouvert une enquête pour déterminer si les os appartenaient à un albino. Le pays connaît une recrudescence des assassinats et enlèvements d'albinos. En 2015, 6 albinos ont été tués selon les autorités malawites et 9 selon les Nations Unies. Une dizaine de personnes soupçonnées d'assassinat, d'enlèvement ou de trafic d'os humains ont également été arrêtées depuis décembre dans ce petit pays pauvre d'Afrique australe. Dans plusieurs pays d'Afrique subsaharienne, les membres et les os des albinos sont utilisés pour des rituels censés apporter richesse et pouvoir.
En Zambie, un haut responsable de l'opposition, Geoffroy Mwamba, a été arrêté. Il est accusé de former une milice en vue de l'élection présidentielle du 11 août. C'est ce qu'a indiqué la police, qui a tiré des gaz lacrymogènes pour disperser ses partisans. L'opposant a été libéré sous caution dans la journée et devra se présenter devant la justice le 10 mars.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Course à la nomination pour la présidentielle américaine de novembre prochain ici aux États-Unis, le Super Tuesday, le jour où un grand nombre d'États et de territoires tiennent leurs élections primaires, a vu hier la victoire de Donald Trump chez les Républicains et d'Hillary Clinton chez les Démocrates. Les précisions avec Melissa Hegel.
Sans grande surprise, le candidat républicain Donald Trump et la démocrate Hillary Clinton se retrouvent favoris des primaires pour la Maison-Blanche. Depuis le 1er février, Trump a gagné 10 des 14 premières primaires et Clinton 11 des 16. Comme avec Barack Obama en 2008 et 2012, la stratégie d'Hillary Clinton repose sur la mobilisation des minorités noires et hispaniques. Mais dans une année marquée par la colère anti-élite, l'ex-première dame, ex-sénatrice et ex-secrétaire d'État représente l'establishment par excellence. Elle s'oppose idéologiquement à son principal adversaire démocrate, Bernie Sanders, qui, malgré son âge, 74 ans, est le candidat préféré des jeunes blancs aisés. Sa politique socialiste attire les électeurs progressistes qui voient en lui l'espoir d'une nouvelle Amérique, fondée sur l'amélioration des droits sociaux, comme par exemple sa promesse de rendre les universités gratuites. Chez les Républicains, le principal adversaire de Donald Trump est Ted Cruz, qui a remporté les primaires de 3 États, même si c'est quasi inévitable que Trump soit le candidat républicain à la Maison-Blanche, il faudra attendre le 15 mars pour en être certain, date où les primaires sur le principe du winner takes it all seront organisées. Cela signifie que le candidat gagnant dans un État remportera tous les délégués de cet État, contrairement à la répartition proportionnelle en cours jusqu'ici. Ces délégués désigneront le candidat de chaque parti qui tentera le 8 novembre de remporter la course à la Maison-Blanche.
L'Union européenne a proposé un budget inédit de 700 millions d'euros pour aider ses États membres à faire face à l'afflux massif de migrants. Lionel Gaïma.
Il s'agit d'une enveloppe de 700 millions d'euros, dont 300 millions pour 2016 et 200 millions par an pour les deux années suivantes. Christos Stylianides, commissaire européen chargé de l'aide humanitaire, précise que cette aide sera mobilisée pour tout pays en difficulté exceptionnelle, mais elle ira, dans une large mesure, à la Grèce. La Grèce a déjà dit qu'elle est arrivée à sa limite d'accueil, car elle abrite déjà 23 000 migrants. Et plus de 10 000 sont bloqués à sa frontière avec la Macédoine. Skopje a laissé passer environ 250 réfugiés syriens et irakiens. Les Européens débordés n'en finissent plus de se déchirer alors que le flux sont loin de diminuer, avec plus de 130 migrants arrivés depuis début janvier. La quasi-totalité est venue par la Grèce, principale porte d'entrée dans l'Union européenne. Les demandeurs d'Asie fuient la Syrie, où un fragile cessez-le-feu est entré dans son cinquième jour.
Dans le sud de la Syrie, au moins 18 rebelles du Front des révolutionnaires de Syrie ont été tués dans un attentat à la voiture piégée contre leur position. L'attaque s'est produite dans le village d'Alachi, proche du Golan, occupé par Israël. C'est ce qu'affirme l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Le Front des révolutionnaires de Syrie est soutenu par les pays occidentaux et des pays arabes, notamment la Jordanie et la Jordanie toute proche. Il avait participé avec d'autres rebelles il y a un an au combat pour chasser les extrémistes du groupe État islamique de la province.
la Jordanie, qui a annoncé avoir déjoué des attaques du groupe État islamique après un vaste coup de filet qui s'est soldé par la mort de 7 djihadistes et d'un officier supérieur, soulevant des inquiétudes quant à la menace terroriste dans le royaume frontalier de la Syrie. L'opération antiterroriste qui a pris fin à l'aube après plusieurs heures d'affrontement dans la ville d'Irbid, près de la frontière syrienne, est la plus importante depuis le début en 2014 de la participation de la Jordanie dans la coalition internationale anti-État islamique menée par les États-Unis.
En Israël, le Premier ministre Benjamin Netanyahou demande au conseil juridique, au conseiller juridique du gouvernement, d'examiner les possibilités légales d'expulser vers la bande de Gaza les proches des auteurs palestiniens d'attentats. C'est ce qu'a indiqué le gouvernement. L'initiative s'inscrit dans un contexte de violence renouvelée entre Palestiniens et Israéliens.
Et signalons aussi que le vice-président américain Joe Biden est attendu en Israël le 8 mars pour une visite de 2 jours, c'est ce qu'a annoncé le gouvernement israélien.
La crise s'est aggravée entre le Hezbollah libanais et les monarchies arabes du Golfe qui ont classé comme terroristes le mouvement chiite pro-iranien, soutien du régime de Bachar al-Assad en Syrie. Cette mesure intervient au lendemain d'un discours du chef du Hezbollah accusant l'Arabie saoudite d'œuvrer pour une sédition entre musulmans sunnites et chiites.
Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com. Allez, on passe à l'actualité économique avec Timothée Donangmaï.
Bientôt, une enveloppe de 15 milliards de francs CFA en faveur du Burkina Faso, une promesse du Fonds monétaire international qui prendra cette décision à l'issue de son conseil d'administration de juin prochain, indique le ministère burkinabé de l'économie et des finances. Parmi les domaines prioritaires selon le fonds, le renforcement des recettes et la bonne gouvernance. Après la Côte d'Ivoire, le président turc Recep Tayyip Erdogan a poursuivi au Ghana voisin son périple africain. À cette occasion, la Turquie et le Ghana ont signé 4 accords visant la promotion et la protection des investissements, la coopération dans le domaine de la communication, de même qu'un protocole d'entente couvrant l'export et l'énergie. Le Ghana a récemment importé de Turquie 4 barges de production d'énergie pour atténuer son déficit d'électricité, rapporte l'agence APA. Enfin, le milliardaire nigérian Aliko Dangote se maintient en tête du classement des Africains les plus riches selon le magazine Forbes. Le président du groupe Dangote a gagné plus d'$1 milliard depuis l'année dernière pour porter sa fortune à $15.4 milliards et se hisser au 51e rang au plan mondial. Avec $75 milliards d'avoir, l'Américain Bill Gates reste l'homme le plus riche du monde.
Et on remercie Tim pour la Minute Éco.
Eric Manirakiza est dans ce studio et c'est pour parler de sport. Eric, bonsoir.
Bonsoir John.
Laureus Award, Bolt, Djokovic et Messi parmi les nommés.
Le rendez-vous est fixé le 18 avril à Berlin pour rendre hommage aux prouesses sportives de l'année calendaire. Djokovic, numéro 1 mondial, est vainqueur de 3 tournois du Grand Chelem. Bolt, triple médaillé d'or aux Mondiaux 2015 et Messi, ballon d'or pour la 5e fois, sont rejoints par le Britannique Lewis Hamilton, champion du monde de Formule 1 pour la 2e année de rang. Le basketteur américain Stephen Curry, champion NBA Golden State Warriors, et son compatriote Jordan Spieth, numéro 1 mondial de golf à 21 ans. La numéro 1 mondiale de tennis américaine Serena Williams figure parmi les 6 nominés pour la trophée dames et les All Blacks champions du monde de rugby sont en course pour la récompense par équipe. La Française Marie Bochet est nommée pour la 2e fois dans la catégorie sportive mondiale de l'année avec un handicap pour son quintuplé historique aux Mondiaux Handsports 2015 à Panorama au Canada.
Football, FIFA, le salaire de Blatter connu fin mars.
Oui, le salaire de Joseph Blatter n'a jamais été révélé pendant ses 17 ans de mandat à la tête de la FIFA. Il sera connu donc fin mars. L'instance a toujours refusé de communiquer le salaire de son président, estimé par certaines sources entre 5 et 10 millions de francs suisses par an. C'est Blatter qui fêtera ses 80 ans le 10 mars, est entré en 1975 à la FIFA comme directeur du développement.
Merci Eric.
Morgan Guiriec et John Mindon en votre compagnie. Place au dossier du jour. Première escale, la République centrafricaine.
Oui, la FAO et le Programme alimentaire mondial font état d'une situation alimentaire très critique en République centrafricaine, un pays victime de 3 ans de violences intercommunautaires. Les deux agences onusiennes s'activent à aider la population face à cette crise. Nanit Talani a joué, monsieur, bienvenue Diossa, le représentant résident du PAM à Bangui.
Selon nos dernières évaluations qui datent de septembre 2015, 50% de la population pour la Centrafrique, qui a une population d'environ 4,9 millions, 5 millions, nous sommes en train de parler de 2,5 millions de Centrafricains qui sont en insécurité alimentaire, madame.
Quelle est la cause de cette insécurité alimentaire?
Il faut distinguer les causes immédiates et puis des causes structurelles qui sont profondes et qui datent de très longtemps. L'histoire nous apprend que la Centrafrique a connu des soubresauts politiques qui ont complètement miné l'économie du pays pendant des décennies, nous dit-on. Mais ce que nous retenons comme la cause la plus récente, c'est justement cette dernière crise qui dure maintenant depuis 3 ans. À cause de l'insécurité généralisée qui ne permet pas à la production d'évacuer à ses activités, et ni aux fermiers, aux agriculteurs, qui représentent 75% de la population centrafricaine, de se livrer à la production agricole.
Qu'est-ce que vous comptez faire pour faire face à la crise alimentaire qui sévit en Centrafrique?
Bon, nous y sommes déjà, donc nous sommes déjà en action. C'est pour ça que justement, cette étude n'a fait que alerter l'opinion internationale et nationale, sinon le PAM avec ses partenaires et d'autres agences. Nous sommes à pied d'œuvre en Centrafrique depuis très longtemps, mais comme le contexte du pays est un contexte de crise, nous sommes beaucoup plus dans l'humanitaire que nous ne pouvons, plus dans l'humanitaire que dans les activités de développement. Mais avec les élections et la paix qui semble profiler à l'horizon, notre intention, et c'est aussi l'intention des autorités de ce pays, c'est de coupler davantage de résilience et de réduction de la vulnérabilité des populations avec l'humanitaire. Dans le cadre de ce que nous avons sur le terrain, nous lançons évidemment un appel pour que les donateurs n'oublient pas la Centrafrique. Parce qu'on a toujours dit, souvent dit que la Centrafrique est une crise oubliée. Le PAM a besoin pour les prochains 5-6 mois de 89 millions, comme on s'est dit dans le communiqué de presse.
Bienvenue Diossa, représentant résident du Programme alimentaire mondial à Bangui.
VOA Afrique, 24 heures sur 24, à Bangui, sur 101.7 FM.
En République démocratique du Congo, la coalition des Congolais pour la transition lance demain une campagne de désobéissance civile pour amener le gouvernement de Kinshasa à respecter la constitution en organisant l'élection présidentielle dans les délais et sans la participation du président Kabila. Eddy Sango a joint le président de la plateforme d'opposition, Emery Damien Kalouira.
Nous avons lancé la campagne nationale de désobéissance civile pour permettre aux Congolaises et aux Congolais de retrouver leur liberté confisquée par le régime de M. Kabila depuis 15 ans. Il s'agit pour les Congolais de se lever comme ils l'ont fait en 2015, au mois de janvier, le 19, le 20 et le 21. Les Congolais ont prouvé qu'ils avaient la possession du pouvoir. Et nous sommes convaincus que le 3 mars, les Congolais vont encore prouver à M. Kabila que c'est eux les patrons. C'est le peuple congolais qui est le propriétaire du pouvoir, pas les politiques.
Que comptez-vous faire exactement?
Les Congolais mobilisés aux côtés des autres forces vives de la République, aux côtés de la coalition des Congolais pour la transition, vont s'illustrer par des actes de désobéissance en émettant toutes sortes de bruits, toutes sortes de désordres. Et pendant cette campagne, nous invitons particulièrement les Congolais à se montrer très charitaires vis-à-vis des forces de défense et de sécurité. Ça veut dire, il s'agit de montrer aux policiers congolais, de montrer aux soldats congolais qui sont aussi congolais. Ils sont aussi victimes de la mauvaise gestion de ce régime de M. Kabila.
La communauté internationale, l'Union africaine notamment, mais aussi les Nations unies encouragent les Congolais à aller au dialogue. M. Ban Ki-moon, qui a fait une tournée récemment au Congo, a rencontré les politiques aussi pour les encourager au dialogue. Est-ce que vous n'êtes pas, vous, en déphasage par rapport à cela?
Nous allons permettre aux Congolais de vivre l'événement, de voir comment un président de la République peut céder ses fonctions sans violence à un président élu par les Congolais. Le peuple congolais ne demande pas le dialogue. Le peuple congolais ne demande plus des élections avec M. Kabila.
Voilà, c'était Emery Damien Kalouira, président de la coalition pour la transition en RDC.
Dans Washington Forum, on fait le point sur la course à la Maison Blanche avec un retour sur le Super Tuesday, le Super Mardi. Hillary Clinton et Donald Trump s'imposent dans les primaires américaines. Alors que représente cette date clé au cœur de la campagne présidentielle? Vos commentaires sur la page Facebook de VOA Afrique. Retrouvez-moi dans Washington Forum, c'est ce jeudi à 19h temps universel.
La présidentielle au Bénin se tient dimanche. Au total, 33 candidats sont en lice, mais 5 parmi eux sont les favoris. Cependant, l'opposition estime que les conditions ne sont pas réunies pour garantir un scrutin crédible et transparent. La controverse, c'est notamment la disponibilité des cartes des électeurs. En conséquence, la Cour constitutionnelle, saisie par une partie des candidats, a autorisé les électeurs en possession soit de l'ancienne carte d'électeur, soit de la nouvelle, à se rendre aux urnes. Pour réaction, Eric Manirakiza a joint à Cotonou le porte-parole du candidat Pascal René Koubaki, Wilfried Oukbedji.
Par le passé, nous avons observé que certains acteurs politiques avaient la manie de les acheter. Et rien ne nous dit que les anciennes cartes d'électeurs achetées auprès des citoyens ne pourraient pas servir à de vastes causes. De sorte que on peut tomber sur des situations où un individu en possession de sa nouvelle carte peut se rendre dans son centre de vote et constater par exemple que quelqu'un d'autre a voté à sa place parce qu'il avait sur lui son ancienne carte. Voilà un genre de situation qui peut être source de tension, source de fraude, davantage parce que le pouvoir lui-même a montré des tendances à la fraude, à l'intimidation, en décidant par exemple, alors même que cela n'est pas de son ressort, que les smartphones, les téléphones portables n'étaient pas admis dans les centres de vote. Heureusement que l'instance chargée d'organiser les élections lui a remonté les bretelles pour signifier qu'il lui appartenait d'en décider et que les citoyens peuvent bien se rendre sur les lieux avec leur téléphone, à charge pour eux de ne pas entrer dans l'isoloir avec.
Les irrégularités que vous relevez, est-ce que ça constitue la seule controverse pour la tenue de ce scrutin?
C'est la controverse principale, en dehors de ce que le candidat du pouvoir bénéficie massivement de l'abus des biens de l'État, ce qui est interdit par le code électoral. Et donc, sur ces deux points-là, nous sommes en phase avec les autres candidats de l'opposition. Nous les avons régulièrement dénoncés et nous en appelons à la conscience du pouvoir et nous engageons les électeurs à sanctionner justement ces dérives du pouvoir finissant.
Et les conditions d'observation au niveau du déroulement du vote et du décompte des voix, est-ce que c'est transparent? Vous pourriez, par exemple, vous assurer si les voix publiées reflètent réellement le choix des Béninois?
Chaque candidat a le devoir d'être représenté dans les bureaux de vote. Pour ce qui nous concerne, nous avons pris les dispositions pour être présents dans les bureaux de vote. La Cour constitutionnelle qui rend les résultats de ces élections, qui peut les annuler ou annuler des suffrages du fait d'irrégularités à ses délégués dans les communes et dans les centres de vote. Elle vient de décider, ce qui est inédit parce que depuis 90, nous n'avons pas connu cela. Elle vient de décider que dans chaque bureau de vote, elle aurait deux représentants. Ça représente à peu près 28 000 représentants sur l'ensemble du territoire. Si cette mesure annoncée par la Cour a été effectivement mise en œuvre, ce sera un niveau supplémentaire, nous l'espérons, pour garantir la régularité et la transparence du scrutin, afin d'avoir des rapports de situation authentiques.
Wilfried Ogbedji, joint à Cotonou par Eric Manirakiza.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, La Voix de l'Amérique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. Notez notre nouvelle adresse voafrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages, photos et vidéos, et vos commentaires sur voafrique.com. À tout de suite.
Au Niger, le second tour de la présidentielle est prévu le 20 mars prochain. Il va opposer le président sortant Mahamadou Issoufou à Ama Amadou, ancien président de l'Assemblée nationale, qui est en prison depuis novembre 2015 dans le cadre d'une affaire de trafic de bébés. La campagne s'ouvre en principe le week-end prochain et il est attendu lors de celle-ci un face-à-face entre les deux candidats. Alors comment est-ce que cela va se dérouler? C'est la grosse interrogation pour beaucoup de Nigériens. D'autres précisions avec notre correspondant à Niamey, Abdulrazak Idrissa.
Le débat radio-télévisé entre les deux candidats est prévu par l'organe de régulation des médias, le Conseil supérieur de la communication, dans l'une des décisions qu'il a prises pour organiser un accès équitable des candidats et des partis politiques aux médias publics à l'occasion des élections générales de 2016. Contacté par VOA Afrique, le secrétariat du Conseil supérieur de la communication indique qu'à cette date, seuls deux candidats se sont engagés formellement à prendre part à ce débat et ce ne sont malheureusement pas les deux qui sont arrivés en tête. Pourtant, au soir de la proclamation des résultats du premier tour, des partisans de l'ancien président de l'Assemblée nationale, Hama Amadou, ont clairement indiqué que, passé cette étape, leur rêve était maintenant de voir leur leader en face du président sortant pour ce grand débat. Des sources proches du parti politique indiquent même qu'une correspondance d'accord pour le débat a été envoyée au Conseil supérieur de la communication. Seulement, même si Hama Amadou s'engageait pour ce débat, il lui sera difficile au vu de sa situation de prisonnier qui ne lui a d'ailleurs pas permis de présenter son programme aux électeurs comme les 14 autres candidats du premier tour sur les médias publics. Arrivé par trois fois à un second tour d'une élection présidentielle au Niger, le candidat Issoufou Mahamadou s'est toujours engagé sans succès pour ce débat. Le fera-t-il cette année? Les jours prochains nous édifieront. Dans tous les cas, la décision du Conseil supérieur de la communication qui prévoit ce face-à-face indique qu'en cas de désistance volontaire d'un candidat, il est accordé à son challenger un entretien de 45 minutes. Abdulrazak Idrissa à Niamey pour VOA Afrique.
Salut les amis, Roger Muntou, la voix de l'Amérique. Restez branchés chaque mercredi dans l'émission RM Show entre 20h et 21h, temps universel. Au menu, international music, comédie, country music. Ne ratez pas votre émission interactive. RM Show vous dit Peace Africa.
C'est la fin de cette édition. À la mise en onde de Joselle Morissin, à la console Nelson Lobbs, présentation Morgane Gaillec et John Lindon.
Ainsi va le monde. Aujourd'hui, la conversation se poursuit sur Facebook où vous pouvez partager ce qui fait l'actualité chez vous ou ce que vous pensez de nos émissions. Posez aussi vos questions dans nos programmes interactifs et n'oubliez pas de visiter notre site internet voafrique.com pour plus d'infos 24 heures sur 24.
Vous écoutez Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. À Bamako, sur 102 FM. Raga FM, Kinshasa. Soleil FM, Conakry. 92.3 FM, Radio Wentanga. Wayeguya, Burkina Faso. Et bien d'autres encore. Sans oublier sur Ondes Courtes. Le Monde Aujourd'hui, sur VOA Afrique.